Bonjour à tous, bienvenue sur nos ondes locales de proximité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine et bonjour à tous nos fidèles auditeurs.
Le mois dernier, vous accueilliez Catherine Ravana pour l'édition de son livre « Elle ». Aujourd'hui, les rôles sont inversés et je vous reçois après l'édition d'un nouveau livre réalisé avec des chercheurs des Chroniques de Bresse. Ce livre s'intitule « Italien devenu français, deux siècles de participation à la vie locale ». Quelle a été sa genèse ?
Ce livre s'inscrit dans l'action 2024, année mémoire, de l'association franco-italienne de Bourg-en-Bresse pour marquer l'importante immigration italienne après la Première Guerre mondiale.
Nous en parlons après avoir écouté quelques notes de Nino Rota pour le film « Le parrain ». J'accueille Rémi Riche, auteur du livre « Italien devenu français », édité par les Chroniques de Bresse. Mais pourquoi un tel livre ?
Le président Enrico Palmieri souhaitait qu'il reste une trace écrite de l'immigration italienne. Les archives municipales de Bourg l'ont incité à contacter les Chroniques de Bresse. Et après discussion, je lui ai proposé de réaliser une publication sans vraiment connaître le sujet. Il a avancé deux propositions. L'immigration en provenance de sa ville, San Severo, majoritaire à Bourg, ou et l'immigration italienne sur l'ensemble de l'Ain.
Et vous vous êtes déterminé pour quelle option ?
Aucune, dans un premier temps. Je me suis d'abord renseigné sur le sujet auprès du musée de l'immigration à Paris. J'ai ensuite étudié des travaux universitaires. J'ai constitué un groupe de travail au sein des Chroniques de Bresse et nous nous sommes répartis les tâches. Claude et Geneviève Brichon se sont intéressés à Bourg-en-Bresse et aux communes voisines, et Michel Pomathiot à certains villages du Revermont.
Et vous ? Vous êtes allé aux archives départementales, un lieu que vous fréquentez assidûment. Quels ont été les résultats de ces premières recherches collectives ?
Beaucoup d'Italiens de Bourg-en-Bresse sont venus de San Severo et des Pouilles, mais ils viennent aussi d'autres régions, comme le Piémont, la Lombardie ou la Vénétie. Ensuite, les archives départementales conservent les enquêtes qui ont été menées auprès de toutes les communes du département pour mieux connaître l'immigration dans son ensemble. Il ne fallait pas que cette immigration fasse du tort à la main-d'œuvre française.
Ces documents sont une mine d'informations que peu d'historiens locaux consulteront. Vous décidez donc d'étendre votre étude et votre publication à l'ensemble du département et de placer l'immigration italienne dans le contexte plus général des migrations. Cette immigration est forte de 1870 à 1960, mais elle est plus précoce à Bourg.
Les pays de l'Ain sont proches de ce qui deviendra l'Italie et ils ont appartenu à la maison de Savoie pendant plus de trois siècles avant d'être français en 1601. On peut aussi noter que Marguerite d'Autriche confie son église à un saint italien, Saint Nicolas de Tolentin, et qu'elle installe des Augustins de Lombardie dans son monastère. On peut ajouter que le troisième préfet de l'Ain, de 1805 à 1812, Marc Aurèle de Bossy, est un piémontais.
Vous avez trouvé d'autres pionniers qui vous ont fait étendre cette étude à deux siècles.
Les parents de l'abbé Gorini, très connu en Bresse comme défenseur de la foi, se marient à Bourg en 1797. Le sieur Vietti, plâtrier peintre, fait de la publicité dans la presse locale en 1821. Il se propose de repeindre les églises. Il est le père de Léon Vietti, le chef de chœur de la lyre ouvrière, dont les qualités vont être connues et appréciées à Lyon et à Chambéry. Une salle à l'arrière du théâtre de Bourg honore aujourd'hui sa mémoire. On pourrait aussi citer les familles Grégory, Pizera et d'autres.
Le premier recensement a identifié les étrangers et celui de 1851, mais ces étrangers sont encore peu nombreux. Leur nombre augmente après la guerre de 1870 ou peut-être davantage, après le percement du tunnel du Mont-Cenis. Des trains directs circulent alors entre Turin et Culoz, gare de jonction, avec la ligne de Lyon à Genève par Bourg, Ambérieux et Bellegarde. Le Piémont est à quelques heures des Pays de l'Ain. Quels sont les premiers lieux d'immigration ?
Une enquête recense ces Italiens en 1882. Des ouvriers participent à des travaux routiers en plusieurs lieux et à la construction du chemin de fer de Lacluse à Bellegarde qui sera terminé en 1882. En 1876, on compte déjà 132 Italiens à Saint-Rambert-en-Bugey, essentiellement des demoiselles employées dans l'usine de traitement des déchets de la soie, la Chape.
L'assassinat à Lyon en 1894 du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste italien provoque des réactions anti-italiennes à Bourg. La gendarmerie intervient pour s'interposer en faveur de plusieurs commerçants italiens, dont des fabricants de chapeaux de paille.
Ces Italiens s'installent d'abord au bas de la ville, place de l'Étoile, puis près de la gare. Enfin, les frères Nannicini, puisqu'il s'agit d'eux, édifient une nouvelle fabrique en 1909 dans l'actuelle rue du Général Delestrin. Le Courrier de l'Ain leur consacre alors un reportage que nous publions dans notre livre. La vogue des canotiers va cesser après la Grande Guerre et cette fabrique cesse son activité durant cette période.
Avant cette guerre, les Italiens sont-ils nombreux dans le département de l'Ain ?
Bourg, Bellegarde, Oyonnax, le Pays de Gex en accueille un grand nombre. Plus étonnant, ce sont les concentrations dans la vallée de l'Albarine où des usines utilisent la force hydraulique. En quelques décennies, la population de Saint-Rambert-en-Bugey double pour dépasser les 5000 habitants en 1911. Au-dessus, le village de Chalais, où les usines fabriquent des toiles métalliques, a aussi doublé sa population. Les Italiens en représentent même 60%.
La guerre de 1914-1918 a des conséquences. L'Italie est théoriquement l'alliée de l'Allemagne, et des Italiens préfèrent quitter la France, notamment ceux du Revermont. Lorsque l'Italie entre en guerre aux côtés de la France en juin 1915, les Italiens expatriés, en âge de combattre, rejoignent leur patrie. Durant cette guerre, par les retours, une forte natalité reste élevée. L'Italie est le seul pays à voir sa population fortement augmenter. Mais elle ne peut pas nourrir tous ses ressortissants. La solution est le retour à l'immigration. Un accord est signé avec la France qui, elle, a besoin de main-d'œuvre pour se reconstruire.
Le voyage est pris en charge de part et d'autre de la frontière, mais la mise en place demande un peu de temps. Alors, des Italiens préfèrent l'immigration clandestine par le franchissement des Alpes. Ensuite, la situation s'améliore et l'immigration retrouve rapidement son niveau de 1911. Désormais, elle concerne l'Italie du Sud et des familles entières arrivent avec de jeunes enfants. Souvent, le chef de famille a pris les devants et lorsqu'il a rassemblé la somme nécessaire, il fait venir sa famille.
L'Italie de Mussolini va tenter de restreindre les départs, mais le flux ne fait que s'atténuer. Et à l'immigration économique s'ajoute l'immigration politique. Les opposants préfèrent s'exiler. La période d'avant-guerre est aussi compliquée, l'Italie ayant choisi le parti de l'Allemagne.
Mussolini s'engage dans la guerre le 10 juin 1940, alors que la France est en très mauvaise position. Cela est vécu comme un coup de poignard dans le dos. L'aviation italienne bombarde Bourg le 16 juin, au moment de la débâcle. Peu après, un armistice est signé avec l'Italie et c'est pourquoi l'armistice avec l'Allemagne ne s'applique qu'au 25 juin. Mussolini a gagné quelques kilomètres carrés de territoire.
Lorsque les Allemands occupent la zone dite libre, l'Italie revendique sa part d'occupation dans le sud-est de la France. C'est ainsi que, dans l'Ain, toute la partie située à l'est de la route nationale 84, de Bellegarde à Lagnieu, est sous administration italienne, de novembre 1942 jusqu'à la chute de Mussolini en septembre 1943. La libération totale de l'Italie est tardive, seulement en mai 1945. Alors l'immigration reprend-elle ?
Toujours aussi nombreuse et dans les mêmes conditions. Les hommes prennent d'abord un point d'attache grâce à des contacts familiaux ou villageois, puis font venir leur famille. On retrouve les mêmes caractéristiques qu'après la Première Guerre.
Nous avons parlé d'immigration, mais peu d'immigrés. De quels emplois vivent-ils en France ? L'image du maçon italien, popularisée par l'écrivain François Cavanna, est-elle une réalité dans l'Ain ?
Comme nous l'avons dit, beaucoup d'Italiens travaillent dans les soieries, un peu moins après la Seconde Guerre. Ensuite, les Italiens acceptent les emplois disponibles, souvent les moins qualifiés et les plus pénibles. Au début, ils ont été charbonniers, avec des conditions de vie en montagne bien particulières. Dans notre livre, il raconte cette page oubliée de notre patrimoine indinois.
À Oyonnax, ils sont ouvriers en peigne. Dans les autres villes du département, on est surpris par la multiplicité des emplois occupés et leur accession à des emplois d'excellence. Dans le bâtiment, ils sont chefs de chantier ou contremaîtres, voire entrepreneurs. Là, ils sont appréciés, non comme de simples manœuvres, mais pour leur savoir-faire.
Les Italiens sont venus en France pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Ils y sont parvenus, mais ils ont dû subir quelques brimades. Si aujourd'hui, ces enfants vivent en harmonie dans la société française, les parents n'ont pas oublié les qualificatifs forts désobligeants dans les cours d'école, au travail, voire au sein des villages.
Cette immigration cesse dans les années 60, car l'Italie a elle aussi réussi son boom économique. Et elle fait partie des pays fondateurs de la communauté européenne, aujourd'hui l'Europe. Il est presque permis d'affirmer que France et Italie sont deux républiques sœurs, malgré leurs divergences. Et pour tous, l'Italie est un beau pays, sur tous ses aspects. Voulez-vous nous donner les caractéristiques de votre livre ?
Si j'en ai rédigé une grande partie, notre livre est collectif. Il comporte 136 pages en couleur, 195 illustrations, 16 tableaux, 10 cartes et 35 pages de témoignages pour lui ajouter une part d'humanité. Toutes nos références sont indiquées.
J'ajouterai qu'il est disponible dans les librairies de Bourg et bientôt dans celles du département, le temps de la mise en place. Nos auditeurs trouveront les points de diffusion sur le site des Chroniques de Bresse. Nous remercions Jimmy à la technique. Et nous nous quittons avec le printemps de Vivaldi, comme symbole d'une vie meilleure dont rêvaient les Italiens. Au revoir.